Libre-échange avec Tammy Rolfi.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Notre actualité cette semaine va toucher un secteur important puisqu'il s'agit des entreprises exportatrices. Je dis un secteur, en fait, beaucoup de secteurs sont exportateurs, mais les entreprises qui ont la spécificité d'être exportatrices. Et nous allons aussi avoir en double dimension de cette thématique la problématique de la loi de finances, puisque l'association marocaine des exportateurs se pose un certain nombre de questions. Et donc, nous allons recevoir comme invité son vice-président.
L'invité de la semaine.
L'invité de la semaine est M. Hakim Rakchi, qui est vice-président de l'ASMEX, l'association marocaine des exportateurs. Merci, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voudrais aussi préciser que c'est Hakim Rakchi. Il est même industriel exportateur. Vous êtes président de Maghreb Industrie. Vous êtes dans l'agro-industrie et vous avez aussi occupé au sein du patronat pendant de longues années des responsabilités de président de la fédération la FENAGRI, qui est en charge de l'agro-industrie. Mais c'est en votre qualité de vice-président de l'ASMEX qu'on vous reçoit. Et aujourd'hui, pour commencer, aller droit au but. Vous représentez les exportateurs et vous nous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la loi de finances.
Effectivement, disons que la loi de finances nous a surpris dans le sens où, disons, avec les débats qui ont eu lieu ces derniers temps, avec le discours de Sa Majesté qui a mis en exergue la nécessité d'exporter notamment en Afrique, on a compris qu'il devait y avoir quelque chose qui devait booster davantage la propension des entreprises marocaines à exporter. On a été plutôt déçus parce que non seulement il n'y a rien pour nous avantager, mais je dirais qu'il y a même, disons, un retrait par rapport aux lois de finances précédentes, puisque certains avantages ont été purement et simplement gommés, en tout cas dans le projet de loi de finances tel qu'il nous a été présenté. Et donc, en particulier, il y avait des dispositions qui permettaient aux entreprises nouvellement exportatrices de bénéficier d'une exonération totale d'IS pendant 5 ans. Ça a été gommé et le taux d'IS pour les entreprises qui exportent au-delà de 5 années a été ramené de 17,5%. Il a été plutôt augmenté à 20%. Alors, ça n'a pas un impact décisif sur la capacité des entreprises à générer des profits, sauf certains secteurs spécifiques, puisque les entreprises type start-up, elles ont besoin d'accumuler le capital rapidement pour...
Donc de ne pas payer d'impôts pendant un certain temps pour pouvoir renforcer leurs fonds propres.
C'est le modèle de développement des start-up. Donc ceux-là n'ont pas cette possibilité désormais, en tout cas si la loi de finances passe telle qu'elle a été initialement présentée. Mais pour le reste, il n'y a pas d'impact réellement, puisqu'il y a une baisse du taux de l'IS pour l'ensemble des industries de 31 à 28% et un relèvement pour les entreprises exportatrices de 17,5 à 20%. Donc l'impact est très faible. Je crois qu'on parle de 40 millions de dirhams par an, ce qui, à l'échelle de l'État, est insignifiant. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on attendait.
Nous, c'est quoi ? La symbolique n'est pas bonne ?
La symbolique n'est pas bonne parce qu'en fait, ce qu'on espérait, c'était des éléments qui permettent d'améliorer, d'une part, la compétitivité, d'autre part, d'établir une relation de confiance avec l'administration. Et c'est quoi la confiance ?
On va y revenir si vous voulez bien. On va commencer peut-être par la compétitivité. Je voudrais rappeler que pour représenter la vie éco, c'est Mehdi Moutalib qui a fait le déplacement. Mon cher Mehdi, bienvenue.
Merci.
Alors la compétitivité est un sujet que vous connaissez et c'est un sujet qui vous interpelle.
Oui, alors déjà, 500, entre 500 et 600 entreprises exportatrices au Maroc, 200 à payer 1 million de dirhams d'IS par an. Où réside le problème selon vous ? Est-ce que c'est un problème de confiance des investisseurs ? Est-ce que c'est un problème de financement des investissements ? Qu'est-ce que c'est ?
D'abord, disons que le résultat, il est affligeant. C'est-à-dire 600 entreprises à l'État, à l'échelle d'un État, comme le Maroc, c'est vraiment très faible. 230 entreprises qui payent plus d'un million de dirhams d'IS, ça veut dire que les entreprises qui exportent ne sont pas en mesure de dégager des profits. Donc le problème, c'est un problème de compétitivité. C'est clair. C'est-à-dire, les entreprises qui opèrent au Maroc ne sont pas en position de dégager des marges. Et là, il y a des raisons évidentes. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, ou peut-être un peu plus, peut-être 11 ou 12 années, le coût du travail a augmenté de plus de 80%. Le coût de l'énergie a augmenté de plus de 60%. Le dirham a été réévalué par rapport à toutes les monnaies qui sont soit celles de nos concurrents, soit celles de nos marchés, c'est-à-dire notamment l'euro ou la livre sterling par rapport à nos marchés et par rapport à des pays comme le dit la Tunisie, la Turquie, l'Égypte, ceux-là ont massivement dévalué leur monnaie.
Ils n'ont pas trop eu le choix.
Ils n'ont pas eu le choix, mais nous, on a eu le choix de les laisser passer. Même à, c'est-à-dire que si l'entreprise paye plus de 80%, plus 80% sur le coût du travail, plus 60% sur le coût de l'énergie, et que les prix de vente baissent parce que le marché est ouvert, le résultat est tout simplement que sa capacité à dégager des marges est anéantie. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus que 230 entreprises au Maroc qui exportent et payent plus d'un million de dirhams d'IS.
Vous nous dites que vous voyez ça, ce changement sur les 12 dernières années. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Parce que les dévaluations en Turquie, en Tunisie et en Égypte, c'est les 3 ou 4 dernières années où ça a été impressionnant. Il y a une douzaine d'années, ces pays étaient tranquilles. Ils étaient sur le marché de manière naturelle avant les printemps arabes. Au niveau de la Turquie, c'était le grand boom. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire peut-être avant ?
Alors moi je vois ce qui s'est passé dans des pays plus proches comme l'Espagne et le Portugal.
Oui.
C'est-à-dire en fait qu'ils n'ont pas dévalué la monnaie, mais ils ont fait des dévaluations intérieures, des dévaluations internes. En fait, il faut baisser les charges, il faut rendre les coûts plus compétitifs. Et en fait, quel est le problème ? C'est qu'on part de certains axiomes qui sont erronés. On dit que les produits importés et les produits fabriqués localement doivent payer les mêmes impôts. Oui, mais on ne paye pas les mêmes impôts. Aujourd'hui, on ne paye pas les mêmes impôts. Lorsqu'on produit localement, on emploie des salariés qui participent à la solidarité nationale. L'entreprise également paye des taxes diverses sur l'investissement, sur l'énergie et sur d'autres. Et donc, la production locale a une empreinte sociale que n'a pas le produit qui est importé.
Ouais, c'est clair.
Mais il faut rétablir l'équilibre.
L'intérêt d'intégrer la valeur ajoutée localement.
Tout à fait. Mais donc, rétablir l'équilibre consisterait à faire payer aux produits importés soit plus d'impôts qu'ils n'en payent aujourd'hui, soit moins d'impôts pour les produits qui sont fabriqués localement.
Bon, le Maroc a des accords de libre-échange.
Ce n'est pas antinomique. Il y a des pays
En fait, ce que vous nous dites, vous, c'est... le Maroc a des accords de libre-échange, donc je veux respecter les accords de libre-échange pour que les produits rentrent sans payer de droits de douane chez nous, en tout cas un certain nombre de pays avec lesquels nous avons ces accords, mais il faut soutenir les exportateurs.
Alors, il faut d'abord, avant d'exporter, il faut produire. Parce que quand on en arrive à avoir 500 ou 600 entreprises marocaines qui exportent, y compris celles qui sont en zone franche, parce qu'elles sont marocaines, elles sont en zone franche. En général, c'est des investisseurs étrangers, mais ils sont comptabilisés dans les 600 exportateurs.
Oui, bien sûr, absolument.
Donc, ça veut dire que les Marocains qui exportent, on ne va pas dire qu'on va les compter sur les doigts d'une main, mais enfin, peut-être qu'entre toutes les mains de ceux qui sont autour de cette table, on va tomber sur tous les exportateurs nationaux. Il n'y a vraiment pas beaucoup.
Ça veut dire quoi, si Hakim Rakchi, en tant que vice-président de la SMEX, ça veut dire que vous n'avez pas assez de membres dans vos rangs ?
On est à peu près 300 précisément.
Voilà. Ça veut dire aussi que les 300 membres de la SMEX ne sont pas exclusivement exportateurs.
Oui, non. Aujourd'hui, on ne peut pas être simplement exportateur. Si vous êtes exportateur, vous êtes aussi capable de travailler sur le marché local et vice-versa. Mmh. C'est-à-dire, si vous êtes sur le marché local, c'est que vous êtes en situation de supporter la concurrence. Et donc, vous êtes souvent, en même temps, producteur local, opérateur sur le marché national et exportateur. Mais il y a, sur les 550 000 entreprises qu'il y a au Maroc, ce que je relève, c'est que la plupart des jeunes entrepreneurs, et même des moins jeunes entrepreneurs, s'occupent d'une compétition qui est très locale. Et quand je dis locale, c'est le quartier. C'est-à-dire, t'es des lots Mhlaba, t'es des lots Kahwa, t'es des lots Chihanout, qui va essayer d'être confronté à la concurrence nationale, ça apparaît comme étant très, 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 très délicat. Et donc, il y a une propension à exporter qui est faible, parce qu'il y a une propension à produire qui est très faible.
Mehdi Moutalib, la vie éco.
En plus de la production, il y a aussi la question de la compétitivité sur le marché international. Selon vous, que faut-il faire pour l'améliorer ?
J'avais commencé à le dire. En fait, il y a certains États qui ont décidé, justement pour marquer l'empreinte sociale de la production locale, de diminuer les charges qui pèsent sur la production. Et donc, ils ont introduit soit la TVA sociale, soit une contribution sociale. La TVA sociale se paye sur la consommation et la contribution sociale se paye sur les profits ou sur les revenus. À certains niveaux, on contribue davantage, on doit contribuer davantage à l'effort de solidarité nationale. On peut imaginer d'autres systèmes, notamment basés sur le poids des marchandises, parce qu'on a des difficultés à cerner les valeurs. Donc si on dit au kilo, c'est facile de dire voilà, c'est une espèce de tic qui est déductible, comme la TVA qui est sur la valeur ajoutée, ou une autre TIC qui serait également déductible et comme sur la consommation d'énergie. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus aucune différence entre les produits importés et le produit qui est produit localement. Et en plus de cela, ça permettrait de contribuer de façon plus globale à la solidarité nationale. Parce que le problème qui est posé aujourd'hui, c'est qu'on produit de moins en moins. Les entreprises ont une durée de vie qui est de plus en plus courte. Ça, c'est mondial. Parce qu'il y a une telle accélération de l'innovation qu'on ne peut plus dire, voilà, vous allez faire un produit qui va durer 20 ans ou 30 ans. Coca-Cola, pour citer un exemple, est une entreprise qui fait le même produit depuis 120 ans ou 130 ans.
Il n'y en aura pas beaucoup. Mais elle innove avec plein de produits, dont certains qu'elle tue elle-même parce que ça ne fonctionne pas.
Ce qui est normal. Mais disons, elle a toujours un produit qui lui permet d'avoir, de générer suffisamment de profit pour faire justement ses essais. Mais disons, la norme, c'est de lancer un concept et de le faire émerger, de le voir mourir également après quelques
Qu'est-ce
mois.
Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'ASMEX de la loi de finances de cette année concrètement?
Alors, ce qu'on aurait voulu, c'est justement enclencher cette dynamique de baisse des charges. Et le climat de confiance, justement, aurait dû introduire cette notion, justement, qui est de répondre à l'attente des opérateurs. Le fait de ne pas répondre à l'attente des opérateurs, je ne vais pas dire que c'est une marque de défiance, mais le sentiment qu'on peut en avoir, c'est que finalement, il y a une espèce d'imperméabilité des arguments des opérateurs et des entrepreneurs par rapport à la haute administration. Donc cette situation doit être corrigée. Parce que les chiffres que nous avons sur le volume des entreprises exportatrices est vraiment beaucoup trop faible. Et donc, pour moi, il y a urgence. Il y a urgence, on est obligé de tirer la sonnette d'alarme et de dire... Enfin, c'est les pouvoirs publics aussi le font. Sa Majesté lui-même l'a dit, de toute façon.
Mehdi Montalib.
Quel est le message que vous percevez de la part du gouvernement?
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, vous comptez pour du beurre.
Ça veut dire que vous nous dites, vous en tant que vice-président de l'ASMEX, que pour vous, le gouvernement, dans sa sortie de la loi de finances, il s'adresse aux exportateurs. Vous parlez en tant qu'exportateur.
Oui, bien évidemment, bien sûr.
C'est comme...
C'est-à-dire qu'ils ont, des problèmes plus importants que ceux des entreprises exportatrices. Mm-hmm. Et donc, je ne perçois pas du tout l'export comme étant une priorité.
Est-ce que c'est trop tard aujourd'hui?
Non,
parce qu'elle passe à la première chambre et à la deuxième chambre. Le débat est encore ouvert. Vous avez le micro qui est ouvert à Swat pour pouvoir aussi interpeller le gouvernement. Qu'est-ce qui est encore faisable à ce stade?
Disons ce que nous avons dit, c'est enclencher une dynamique. Il faut enclencher une dynamique, dire on vous a entendu, on vous comprend, et donc on corrige le tir.
Vous avez reçu le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie il y a quelques jours au sein de l'ASMEX.
Oui.
Comment s'est passée la relation? Vous lui avez fait part du fait que votre message, c'est « Mefit Koumch ».
Bien évidemment, on lui a dit il y a un problème de compréhension. Maintenant, eux-mêmes disent « on est prêt à tout essayer ». Bon, je comprends, le ministre des Finances est nouvellement arrivé, il découvre les problèmes. Son discours n'est pas mauvais du tout, c'est-à-dire on est tout à fait d'accord. Il y a un moment, on lui a dit « moi, je préfère payer 50% d'IS, mais gagner de l'argent, qu'avoir un taux de 10%, même de 0%, mais je gagne rien ». C'est-à-dire, c'est évident. Et bon, c'est quelque chose qu'il a dit lui-même. Donc
ça passe par la compétitivité et la capacité exportatrice.
Absolument. Il faut travailler sur la compétitivité. Si on n'est pas capable de travailler sur la compétitivité, il y a bien sûr d'autres leviers que la compétitivité. Il y a
lesquels?
D'autres freins.
Alors, on va en profiter. Lesquels? On est à la fin de l'émission, mais ça m'intéresse. Quels sont les autres leviers?
Il y en a deux autres. C'est le problème du code du travail qui aujourd'hui accable les entrepreneurs. Enfin, de façon générale, par rapport à l'incertitude de son application. L'incertitude l'incertitude de l'application du code de travail fait que la propension à entreprendre est très faible au Maroc.
Et on le voit. Illustration concrète, ça veut dire quoi?
Écoutez, il y a 550 000 entreprises au Maroc. Il y a 350 000 entrepreneurs marocains à l'étranger. Donc on ne peut pas dire que les Marocains ne savent pas entreprendre puisqu'ils entreprennent à l'étranger. Oui. Et ils réussissent à l'étranger. Oui. C'est qu'on a un problème ici. Le plus gros problème que nous ayons, c'est celui du code du travail dans son application. On n'a pas besoin de changer le code du travail forcément. On peut opérer de façon plus intelligente. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir des accords de branche qui permettent de contourner le code du travail. Et les accords de branche font qu'il y a une espèce de consensus entre les employés dans un secteur et d'autres activités ou d'autres, je ne vais pas dire activités, mais lois ou organisations. Notamment pour mieux normer les métiers, pour mieux surveiller les marchés, pour mieux tracer la production. Et en contrepartie, disons, tout le monde pourrait être gagnant parce qu'on pourrait avoir un code du travail au niveau des branches plus émancipé. Et quand je dis émancipé, c'est qu'il à la fois préserve les droits des travailleurs, mais également préserve la capacité d'entreprendre.
Hakim Rakchi, vous disiez il y a l'incertitude à l'application
du Code du travail.
Et il y avait il y a deux leviers.
Et l'autre levier, c'est mieux exporter. Alors comment est-ce qu'on va exporter mieux ? C'est-à-dire pour mieux exporter, il faut savoir cibler ces marchés. J'ai besoin davantage d'informations sur ce qui se passe dans les marchés que je cible. J'ai besoin de savoir à qui je vais exporter, quelles sont les personnes clés, quelles sont les activités de mes concurrents, quels sont les prix qui sont pratiqués. Et donc là, il y a besoin davantage d'intelligence économique sur les marchés de destination. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas à Casablanca ou à Tanger, on exporte en mieux travaillant les marchés cibles, que ce soit à Abidjan ou que ce soit à New York.
Merci. En rentrant en studio, vous nous disiez l'exportation ne se fait pas au départ du port de Tanger ou de Casablanca. L'exportation se fait sur les marchés, sur le terrain, ailleurs dans d'autres pays.
Le Zoom de Libre-Échange.
Alors, je vais consacrer le Zoom Libre-Échange justement à ces questions d'exportation et peut-être dire qu'un des défis majeurs de notre pays est de créer de la richesse et aussi de mieux la redistribuer. C'est ainsi que nous pourrons créer des emplois. Il faut dire que le marché domestique, avec ses 35 millions de Marocains, dont 5 millions vivent déjà à l'étranger, est-ce qu'il est la dimension, la taille de ce marché ? Est-ce qu'il est surtout avec des frontières fermées à l'Est et un Maghreb qui est en panne ? Le salut ne peut donc venir qu'en transformant l'économie marocaine et de renforcer sa capacité exportatrice. Il faut rappeler que nous ne disposons que de quelques 600 entreprises dont l'activité principale est dédiée à l'export. Les 5000 autres qui se disent exportateurs sont considérés comme épisodiquement exportatrices, ne sont pas des entreprises exportatrices pour une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Alors si je dis que le salut ne vient qu'en renforçant la capacité des entreprises à exporter, à oser le marché international, à booster leur compétitivité, parce que j'ai la conviction que c'est ainsi que nous pourrons créer des emplois en masse, de donner du sens à l'investissement, de remettre le capital marocain dans l'investissement productif et d'intéresser aussi certainement les investissements familiaux, le capital familial, ceux des entreprises familiales qui s'en est allé depuis quelques années dans le foncier et dans la rente plutôt que dans la production. Et donc, pour conclure ce Zoom de Libre-Échange cette semaine, je voudrais peut-être poser quelques questions. Comment le Maroc peut-il ainsi se transformer ? Est-ce que le temps n'est pas un allié aujourd'hui parce qu'il nous fait défaut ? Le temps n'est certainement pas un allié dans cette affaire. Quelle peut être la stratégie lisible du gouvernement, je dis bien lisible, pour travailler à ancrer effectivement notre système de production aux marchés internationaux ?
Le mot de la fin.
C'est vous qui avez le mot de la fin, monsieur Hakim Rakchi. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Maghreb Industries. Vous êtes vous-même dans une entreprise dont l'activité exportatrice. Et vous êtes vice-président de la SMEX et vous êtes notre invité. On vous laisse la parole.
Nous sommes conscients, nous entrepreneurs et exportateurs, nous sommes conscients de nos devoirs. Nous savons que c'est parce que nous serons plus audacieux que nous pourrons exporter. Nous savons également que c'est en mieux travaillant notre productivité qu'on va améliorer notre compétitivité. Mais en même temps que nous avons des devoirs et des obligations, nous avons également des droits et des revendications. Les droits et les revendications, ce sont celles que j'ai exprimées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement mieux définir la compétitivité nationale, mieux travailler sur la compétitivité nationale. On doit davantage écouter, disons, ce que sont nos revendications. On doit y répondre. Parce que les chiffres que nous avons aujourd'hui, 500 à 600 entreprises qui exportent...
Dont l'activité principale d'exportation.
Non, qui exportent régulièrement. Ouais, ce n'est pas forcément l'activité principale. Qui exportent régulièrement. Ouais. Parfois 10% de leur chiffre d'affaires est à l'export, mais c'est régulier. 230 entreprises qui payent plus d'un million de dirhams lorsqu'elles exportent. 200 millions de dirhams.
Seulement 230.
Un million de dirhams.
Seulement 230.
Moi, je trouve que c'est un chiffre qui... Ce sont des chiffres qui sont affligeants. J'ai les bras qui tombent. C'est-à-dire que devant la pauvreté, du tissu...
Productif exportateur.
Et la faiblesse des moyens qui sont engagés pour redresser la barre, j'ai les bras qui tombent.
Oui. On va finir sur cette note-là bien pessimiste ou il y a encore un peu d'espoir ?
Non, bien sûr qu'il y a de l'espoir, parce que sinon je ne serais pas là.
Merci beaucoup. Je rappelle Hakim Rakchi, vous êtes vice-président de la SMEX, vous avez été notre invité dans Libre-Échange cette semaine. Je vous remercie, mon cher Mehdi Moutalib. Au plaisir de vous retrouver dans nos studios. Pour ma part, je vous donne rendez-vous même heure, même endroit. Vous savez où ça se passe. Ce sera avec grand plaisir et c'est sur Aswat.